Nous accueillons maintenant Cyril au 39-21. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cyril et quel âge avez-vous ?
Alors, j'appelle de la région bordelaise, j'ai 46 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Cyril ?
Alors, c'était pour une réaction. Moi, j'ai monté une association qui s'appelle Assopol avec des amis, des collègues, pour parler, pour combattre le mal-être qui touche les forces de l'ordre, entre autres.
D'accord. Mais je vous écoute. Dites-moi, d'où vous est venue l'inspiration de la création de cette... C'est une association ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une association. Nous l'avons montée il y a bientôt 3 ans, en fait. Et sur un constat un peu simple, déjà, en fait, c'est parti d'une incompréhension suite aux événements qui se sont passés sur Viry-Châtillon, où des fonctionnaires de police ont été bloqués dans leur véhicule et où des personnes ont tenté d'y mettre le feu, ont mis le feu, d'ailleurs, au véhicule avec les fonctionnaires de police à l'intérieur. Donc ça, c'était un gros souci, et qui nous a beaucoup marqué au niveau des forces de l'ordre. Et ça a mis en avant un peu le mal-être traversé par les personnes qui font ce métier, qu'ils soient gendarmes, policiers municipaux, autres. Et du coup, on s'est dit, mais comment pouvons-nous aider en dehors des sentiers battus, en dehors des systèmes qui sont un peu mis en place par les différentes administrations, donc pour libérer la parole. Et on est parti de cette idée-là pour monter cette association, en fait, qui a pour but vraiment d'échanger, parce que au fil de nos carrières, de tout ce qu'on traverse, malheureusement, on a affaire un peu à la misère et à la souffrance des gens. Et quand on fait ces métiers-là, en fait, c'est avant tout des métiers pour aider. Et pour on n'est pas là pour réprimer à tout prix. On est vraiment là pour aider. Et donc cette incompréhension, on essaie de la combattre, nous, au quotidien, de par notre travail. Et puis, de par l'association, on essaie d'aider et de répondre à cette incompréhension et de la part des forces de l'ordre, en disant mais on comprend pas pourquoi on est stigmatisé systématiquement ou on est jeté comme ça à la vindicte dès qu'il y a un souci. Donc
c'est le sentiment c'est le sentiment qui vous habite Cyril, d'être stigmatisé en permanence automatiquement, parce que en fait, j'entends complètement ce que vous dites. On évoque souvent ici, on parle de la société sur cette libre antenne. À travers les témoignages différents que nous avons, on parle de beaucoup de stigmates de la société, mais aussi de vécu, de la solitude, du voisinage, du regard sur l'autre, du jugement. On avait Lilou hier soir qui nous parlait du regard qu'on pouvait porter sur son couple alors que son mari était tétraplégique. Vous voyez, on évoque beaucoup de choses et finalement on parle de la vie et de la vie de tout le monde. Et on évoque parfois les policiers, on évoque les pompiers. Je me suis souvent élevé sur cette antenne. Je me suis élevé contre le comportement de certains citoyens par rapport aux pompiers, par rapport aux policiers. Et je n'ai pas l'impression que toute la population vous stigmatise. Je pense que vous avez quand même toute une partie de la population qui connaît la difficulté qu'est votre métier au quotidien, la pénibilité, la dangerosité aussi. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous reprendre là-dessus. Je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui vous stigmatise, qui entretient une certaine haine, une certaine méfiance vis-à-vis de vous. En contrepartie, il y a quand même des collègues à vous qui entretiennent la même chose. Mais ça, on y viendra après, si vous le voulez bien.
La nature humaine.
Exactement. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a des bons et des mauvais, un peu partout. Il n'y a pas une oie blanche d'un côté et puis les autres de l'autre côté.
Tout à fait. Et puis le mal-être, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une partie, mais il y a toute une autre partie. C'est que nous, de par nos interventions, comme tous les métiers de secours à la personne, on parle des forces de l'ordre comme vous le disiez tout à l'heure, les pompiers, les gens du SAMU, les urgences. Voilà, on a affaire aussi à la souffrance d'autrui au quotidien. Et nous, dans notre volet, on a une part judiciaire en plus que l'on exerce sur la voie publique ou en investigation, peu importe, systématiquement, en fait, pour les besoins d'une enquête, on a besoin, nous, quand on reçoit la victime, systématiquement d'être dans la bienveillance et prendre une part de cette souffrance pour avoir un discours de la part de la personne qui nous fait une déposition des plus simples et des plus justes possibles. Donc, il faut pas non plus que ces personnes-là, quand elles arrivent, quand on commence à les recevoir, à les prendre en compte, la souffrance prend le dessus. Donc automatiquement, il faut qu'on arrive à entamer un dialogue avec une phase psychologique pour être dans cette bienveillance, et prendre aussi de cette souffrance pour pouvoir calmer et avoir un discours clair et précis en fait de la personne qu'on a en face de nous, quelle qu'elle soit.
Et ce ne sont pas toujours des situations faciles à aborder.
Ça c'est sûr, parce que quand automatiquement vous avez des violences faites sur des enfants, des conjointes, peu importe, on a une vie familiale également, et automatiquement, par exemple, quand on a à prendre en charge un enfant, automatiquement, quand on est des pères ou des mères de famille, donc on fait un transfert également.
Oui, en disant, il faut savoir prendre le recul.
Enfant. Mais voilà, donc pour prendre ce recul, effectivement, il faut ramener les gens le plus possible dans une zone de confort psychologique. Donc automatiquement, c'est absorber de cette souffrance, la prendre sur nous pour rassurer la personne est pour la calmer.
Mais ça, Cyril, j'ai envie de vous dire, c'est la mission qui est la vôtre.
Ah oui, tout à fait, on l'a
mais
choisi.
Moi, ce dont j'aimerais que l'on parle ce soir, c'est, vous êtes policier vous-même. Donc j'aimerais vous entendre, parce qu'on évoque souvent, finalement, la vie difficile des forces de l'ordre. Vous partez le matin, vous avez des enfants, vous m'avez dit, vous avez une femme. Voilà, il y a aujourd'hui une escalade dans la société de violence qui fait que quand on part le matin, je suppose que quand on est policier, on ne sait jamais si on va rentrer le soir finalement. Il doit y avoir dans un petit coin de la tête la possibilité de. Il faut vivre avec ça. Tous les travailleurs qui démarrent le matin à 7h ou à 8h ou à 9h n'ont pas ce style de. Penser dans un coin de leur tête.
Mais tout à fait. C'est entièrement ça. C'est que effectivement que ce soit le matin, le soir, peu importe, parce qu'on est amené à travailler à n'importe quelle heure, on va dire 7 jours sur 7. Systématiquement, en fait, on a toujours ça dans un coin de la tête, avec des malheureusement des certains faits d'actualité qui nous rappellent à l'ordre sur la dangerosité de nos métiers. En ce moment, avec l'actualité du Bataclan, donc avec ce genre de souvenirs, effectivement, il y a 20 ans, en fait, même s'il y avait eu les attentats dans les années 90 de Saint-Michel, on n'était pas dans la même... c'était pas la même atmosphère. Il n'y avait pas une violence comme on côtoie maintenant à chaque coin de rue, des agressions au couteau quotidiennes,
Cyril, on va parler de vous après, parce que j'ai votre fiche devant les yeux. Vous avez, on va l'aborder à un moment, le burn-out que vous avez fait et le mal-être que vous avez eu à un moment. Il y a quand même aujourd'hui une société, dans cette société, des frontières qui ont été largement dépassées en tant que respect des forces de l'ordre. Moi j'ai un ami qui travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, qui voit des gamins de 13 ans, ils voient un policier, c'est comme s'ils voyaient un balayeur. Vous voyez, ils vont parler à un policier comme un instituteur ou un prof, en l'insultant. Il y a aujourd'hui, vous n'avez pas ce ressenti-là,
tout à fait. Alors déjà, je pense, que insulter ou s'en prendre verbalement, que ce soit une personne qui balaye dans la rue ou un instituteur, déjà à la base, c'est pas normal. Voilà.
Non,
ça, à la base,
bien
c'est pas
évidemment.
normal. Après, on est dans une. On le voit tous les jours, malheureusement, avec ce que la télévision nous reflète, avec toutes les images qu'on peut avoir même sur Internet, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans, peut-être. Une banalisation de la violence, une escalade de la violence en disant, bon, bah, tiens, dans. Peut-être, alors c'est peut-être mon analyse qui est peut-être faussée, mais bah tiens, dans tel quartier ils ont fait ça, hop, ça va être l'escalade. Dans notre quartier, on va faire mieux. Dans
ouais,
notre quartier
ouais.
ou dans notre coin, hein, parce que même en campagne, nos collègues gendarmes, ils sont confrontés à la même chose. C'est pas une histoire de quartier particulièrement sensible ou autre, hein, parce que il y a des endroits.
Il y a des endroits voilà, en campagne qui sont rudes, très rudes.
Mais tout à fait,
ah,
tout à
peut-être
fait.
Peut-être pas donc, avec la même représentation de ces mortiers, parce que peut-être
non,
qu'en
on n'est pas sur
ça,
le même.
On n'est pas,
pas forcément sur le même registre. On n'est pas sur la.
On n'est pas même sur la même guérilla, on va dire.
Mais pour l'instant, qu'est-ce qui nous.
Pour l'instant.
Peut-être que, enfin, ouais. on le souhaite pas. Mais bon, plus ça va, plus on voit que ça dégénère.
Moi, je vous le dis franchement.
On va aller, ça fait peur pour l'avenir.
Je vais
fait.
Vous dire franchement ce que je pense, mais cette communauté qui nous écoute depuis longtemps ne sera pas étonnée de ce que je vais dire. Je suis profondément choqué de voir les images que je vois encore, pas plus tard que la semaine dernière, au Tarteret, où je vois des. Gamin de 15 ans tiré sur un fourgon de police qui est obligé de battre en retraite sous les insultes, sous les pierres, sous les. Je trouve totalement mais anormal, scandaleux, inquiétant ça, aussi bien que les images que nous distillent les chaînes d'infos continues de ces mortiers, de ces feux d'artifice là, contre les commissariats ou contre les policiers. Au-delà, là, c'est une escalade, c'est une autre escalade. Passer les insultes et le non-respect des forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui,
ah oui,
moi, j'ai passé 50 ans, si vous voulez, j'ai été élevé dans le respect et la peur. Je dis le respect parce que l'éducation faisait qu'on respectait l'uniforme parce qu'on en avait peur, quelque part. Parce que si on avait affaire à l'uniforme dans le temps, eh bien, c'est parce qu'on avait fait quelque chose. Aujourd'hui, mais. Je sais que nous sommes plusieurs à penser la même chose. Le respect qu'informe, le respect qu'impose l'uniforme, pour tout un tas de gens, il est foutu à la poubelle. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, policiers ? Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien ? Est-ce que vos chefs vous disent « Bon, bah, les gars, aujourd'hui, ça a changé. Et bah, quand on vous traite de tous les noms, quand on traite votre mère ou votre... votre femme, et tout, vous la mettez en veilleuse parce que vous n'avez pas le droit de répondre. Parce que c'est un peu ça qui se passe, en fait.
Bah c'est, oui, tout à fait. C'est un peu ça qui se passe. Et en même temps, quelle réponse
Et c'est ce que j'allais vous dire, à répétition. C'est... Pas de réponse, à part le silence. Et quelle réponse à répétition
Il n'y a pas de réponse.
C'est
et le problème, c'est que même. Mais voilà, tout à fait. Parce que bon, bah, voilà, il ne faut pas croire. Hein, la hiérarchie, nos chefs directs et indirects, ça ne les amuse pas non plus. Donc, ils essaient de trouver des solutions. Alors, tout le monde crie au scandale quand on fait certaines opérations de police juste de contrôle, hein, parce que gagner du terrain, on va dire, sur la délinquance en général, c'est occuper le terrain. Donc, on occupe le terrain. On va occuper le terrain peut-être juste par un contrôle de police ou juste par une présence physique et statique. Mais derrière, ça peut dégénérer. Malheureusement, on a toujours ça en tête. Ça dégénère. On va se prendre des mortiers. OK. Alors, on recule. Si on ne recule pas, on va à l'affrontement. Si on va à l'affrontement, qui est-ce qui va être en ligne de mire ? Qui est-ce qui va être, on va dire, pointé du doigt systématiquement ? Jusqu'à maintenant, c'était soit le politique ou le chef qui a pris la décision d'envoyer les forces de l'ordre, on va dire, devant ou au contact. Donc, il va être pointé du doigt, ou même les forces d'eux-mêmes eux-mêmes vont être pointés du doigt si ça dégénère. Donc, du coup, bah, là, pour l'instant, on est plus dans... Bon, bah, nous, on préserve notre intégrité physique et notre hiérarchie le fait en disant « Protégez-vous avant tout, donc
oui,
repliez-vous,
c'est pas toujours
malheureusement. »
Facile, repliez-vous. Ouais. Et,
voilà,
ça donne lieu à des images comme on a vu encore,
ben voilà,
mais qu'on voit toutes les semaines, hein, finalement.
Ben tout à fait. Et malheureusement, il y a, parce que dans ces quartiers, enfin bon, où que ce soit, hein, c'est toujours une minorité de... voilà, c'est une toute petite minorité.
Oui, mais très représentée dans les médias. Et donc, du coup, voilà. Je vais vous dire le danger de tout ça. Le danger de tout ça, c'est que cette minorité dans les quartiers, et je rappelle ici à tout le monde qu'il y a des quartiers dans toutes les villes aujourd'hui. Hein, moi, je veux dire, j'ai vécu dans ces quartiers à la Madeleine d'Évreux. Ma grand-mère habitait à la Madeleine d'Évreux. J'ai passé ma toute petite enfance et une partie de ma jeunesse à la Madeleine d'Évreux. C'était un quartier. Et en ce temps-là, il n'y avait pas tout ça. Il y avait une solidarité, une joie de vivre dans ces quartiers qui ont bien évidemment changé. Et on ne va pas refaire ici l'histoire des quartiers, l'évolution de la société française. Mais une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plus démunis d'entre nous se retrouvent dans ces quartiers. Vous êtes au contact de toute cette population, une minorité qui, dans certains quartiers, est une minorité quand même importante en termes d'individus. On le voit dès qu'il y a un incident. Faut pas trop pousser pour y a une étincelle et ça peut être vite. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'étais filmé au Courbat il y a 4 ans maintenant pour Dans les yeux d'Olivier, j'y ai croisé des policiers, des gendarmes et des policiers aussi bien des OPJ, des officiers de police judiciaire, que des bleus, des policiers en uniforme ou des policiers de la BAC ou des gendarmes. Tous, en fait, me parlaient de cette usure, tous les jours, prendre des insultes, tous les jours, être obligé de ne pas répondre, tous les jours, être exposé au danger, tous les jours, jusqu'au jour où, comme vous le dites, il y a une scène plus violente à un moment, et où on est confronté à une violence, on nous en a parlé, mais là on est dessus en tant que policier, et on voit quelque chose d'ultra-violent, et c'est là que ça claque, ou alors ça peut claquer un jour où on ne s'y attend pas, justement parce qu'il y a l'usure, tous ces policiers avec lesquels j'ai parlé au Courbat m'ont mis des frissons, quoi, parce qu'ils me parlaient d'une profession qui était devenue, mais il faut être sacrément armé psychologiquement aujourd'hui pour faire ce métier. Ça, et je vous laisse en parler, parce que c'est vous le policier, c'est pas moi. Mais moi, je vous relate la parole de ces policiers, de ceux que j'ai rencontrés qui avaient craqué, mais qui m'ont raconté une réalité qui est très inquiétante, très inquiétante.
Ben oui, mais si vous voulez, c'est une conjonction d'éléments, c'est compliqué parce que la nature humaine est scalée, et puis chaque individu a sa propre façon d'aborder la souffrance, mais effectivement, le problème, c'est que quand vous êtes confronté, que ce soit à cette violence, ou à l'impuissance par rapport à une victime, parce que quand il ne faut pas croire, quand on reçoit une victime, quand on prend en compte une victime, on a nous-mêmes un sentiment d'échec en tant que policier. C'est-à-dire que, en se disant, à cet endroit, par exemple, on est passé en patrouille là il y a une heure, on aurait décalé notre patrouille, on aurait fait autrement, ça ne serait peut-être pas passé. Donc automatiquement, à la fois la violence qui est faite vis-à-vis de nous, qu'elle soit verbale, visuelle même, parce que quand vous voyez des tags avec des insultes ou des menaces de mort à chaque coin de rue sur un secteur, quand c'est répétitif, c'est usant également. Quand vous voyez la souffrance des victimes également, et puis l'impuissance que vous avez par moment, avec toute la bonne volonté d'avoir pu enrayer une agression, un vol, peu importe. Tout ça, vous le vivez 10, 20 fois dans la journée. Vous répétez ça sur une année, sur 10 ans, sur 20 ans.
Oui.
Au bout d'un moment, ce sont des, parce qu'on a une certaine pudeur aussi dans notre métier.
Mais vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes.
C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on tienne le coup, mais au-delà de ça, nous sommes des hommes comme tout le monde. Nous sommes des pères et des mères de famille. C'est comme tout le monde. Et en fait, donc il ne faut pas qu'on craque. Il ne faut pas qu'on craque. On n'en parle pas par pudeur, et puis en se disant on passe à autre chose, et puis en avant. Mais sauf que, au bout d'un moment, le sac à dos que vous avez accumulé, que vous transbahutez sur vos épaules, au bout d'un moment, ça craque.
Vous, Cyril,
tout simplement.
Vous dites que vous avez longtemps souffert en silence, des années de mal-être avant un burn-out et une hospitalisation. Comment vous y êtes arrivé progressivement? Qu'est-ce qui vous rongeait, en fait?
C'est une conjonction en fait de pas mal de choses. Comme tous mes collègues, je suis passé par la voie publique. Suite à ça, j'ai voulu changé. Donc, je suis parti en investigation pendant de nombreuses années également. Puis, je me suis aperçu, en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment ce raisonnement, et je me suis aperçu que sur la voie publique, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, on se fait insulter, on a affaire à la violence qui montait crescendo, de toute façon, et qui continue malheureusement de monter crescendo. Nous avons affaire aux victimes également. Souvent, on intervient en premier, avant les pompiers même, ou avant les médecins, peu importe. Donc, voilà, ça c'était la, on va dire, les souffrances du quotidien qui se répétaient. Parce que bon, bah, quand vous intervenez le matin, un accident de la route, un gamin qui était en vélo, qui se fait percuter par une voiture, malheureusement qui est décédé,
ça vous fait la journée, voire la semaine. En émotion.
Oui, parce que voilà, quand la personne n'est pas décédée à l'hôpital, c'est sur la voie publique, c'est vous. Si c'est sur votre circo, vous toquez à la porte et vous allez voir les parents pour annoncer malheureusement un décès. Ça, sur un accident de la vie. Vous êtes appelé pour une constatation de mort subite du nourrisson, par exemple. Là, il faut gérer les parents, en plus des médecins, etc., le temps qu'il y ait une psychologue ou un médecin psychiatre du SAMU qui arrive, par exemple. Ça m'est arrivé à une reprise, ou deux reprises même, sur ma carrière. Mais plus d'autres souffrances du quotidien. Donc, je me suis dit, il faut que je change d'air, je change de service. On a la possibilité de changer, d'évoluer. Je vais en investigation, comme beaucoup de mes collègues. Sauf qu'en investigation, on a nos tours de permanence. Faut bien recevoir les gens pour prendre les plaintes. Et quand vous avez une victime qui arrive d'agression, c'est une chose. Ok, pas de problème, on prend. Voilà, on calme la personne psychologiquement et on prend la plainte. Parce que la plainte doit retracer le plus possible d'éléments. Donc, il faut avoir les idées claires. Donc, automatiquement, on est dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la prise en compte de la personne. Derrière, vous avez une personne qui va arriver pour un viol. Alors là, rebelote, ça c'est d'autres souffrances différentes qui arrivent. Et tout ça, voilà, tout ça s'entremêle en fait, que ce soit cette violence, cette souffrance. Et en fait, il n'y a rien qui transparaît au boulot. Il ne faut pas, surtout pas. Donc vous tenez le coup. Mais sauf que ça vous affaiblit physiquement et psychologiquement. Donc vous arrivez chez vous et au fil du temps, vous perdez le goût à tout en fait. Les petits bonheurs de la vie, ça vous restez insensible à côté de ça. Vous passez à côté. Vos enfants, oui, vous le faites, mais voilà, ça vous crée pas plus d'émotions que ça. Les sorties, vous voulez plus les faire. Vous voulez plus rien faire. En fait, vous devenez un peu aigri et replié sur vous-même. En fait, et puis vous êtes pris d'une très très grande fatigue. Et ça, c'est le début de la spirale. Oui. Et ces événements se répètent sur plusieurs années. En fait, c'est comme un puits sans fond qui vous aspire. Il y a différentes personnes qui peuvent s'en rendre compte, qui vous tendent des mains, mais vous ne voyez pas les mains qu'on vous tend, en fait, vous continuez à vous enfoncer.
Je pense qu'il y a, il y a un moment où, bien évidemment, on ne doit plus voir, parce qu'il y a un moment, comme dans toute dépression et dans tout burn-out, où on n'a pas su tirer le signal d'alarme et qu'on est bien loin, parti loin. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Cyril, et puis on va continuer de vous écouter, parce que, bien évidemment, c'est intéressant. Et puis, on va profiter de votre parole, parce que c'est rare d'entendre un policier parler. Et je pense que toute la communauté, ce soir, la Libre Antenne, est très curieuse de vous entendre encore. On se retrouve tout de suite, Cyril. Pour l'instant, nous sommes avec Cyril, policier, qui a fondé une association pour soutenir ses collègues des forces de l'ordre, et qui nous parle de cette profession ce soir. On a souvent évoqué cette profession à travers le témoignage des victimes que l'on accueille sur cette Libre Antenne. Il est bon d'entendre aussi la parole de Cyril ce soir, qui nous parle de ce burn-out dont il a été victime à un moment, en fait, lorsque on a ce poids de la fonction sur les épaules, Cyril, et qu'on s'aperçoit qu'on est dedans, en fait, qu'on est dans le dur. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à ce moment-là?
comme beaucoup malheureusement, je pense. C'est-à-dire que bon bah je me suis laissé enfermer par tout ce mal-être. Je me suis laissé entraîner vers le fond en fait, mais vraiment. Et malgré toutes les mains qu'on a pu me tendre, en fait, je m'en rends compte maintenant, quelques années par la suite, j'ai pas été attentif. Pourquoi? Bah parce que quand on est pris de mal-être, on voit que le négatif, on voit pas le positif, mais pas du tout. Tout est fade en fait autour de vous. Tout vous paraît vraiment insipide et sans intérêt en fait. Et malheureusement, même la vie du quotidien. Et moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir dans mon entourage un ami médecin.
Oui.
Qui a commencé à m'ouvrir un peu les yeux. Et bon, bah, à un moment, je sais pas pourquoi, j'étais plus ouvert, on va dire, à la discussion qu'à un autre moment. Et j'ai accepté un premier rendez-vous avec lui pour parler de ça et tout mettre à plat.
C'est-à-dire qu'avant cette rencontre avec cet ami médecin, avant cette première discussion, est-ce que vous étiez parce que policier, parce que finalement cette profession, elle demande aussi de ne pas flancher, est-ce que vous étiez à encaisser sans devoir rien dire?
Oui, tout à fait. Alors, c'était, on s'en rend même pas compte, en fait. Je pense au fil des ans, on se crée une carapace pour que rien ne nous atteigne, en fait. On essaye, du moins. Parce qu'indirectement, ça laisse quand même des traces. Ça, c'est indéniable maintenant. Mmh. En prenant du recul, là, je m'aperçois que même si on a le sentiment voilà, d'avoir ce bouclier, d'être résistant à tout, à toutes les atrocités qu'on peut voir, hein, parce que c'est le cas, ou même à toutes les difficultés qui viennent familiales, qui s'entremêlent avec tout, en fait, on est imperméable à tout. Ça, c'est clair. Et c'est comme une gangrène en fait. C'est comme une gangrène. Vous gangrénez tout sans vous en rendre compte parce que, on va dire, la mauvaise humeur, comme le manque de goût, d'un point de vue personnel, vous le retrouvez aussi au niveau du travail où vous y allez machinalement parce qu'il faut y aller. Vous ne vous posez pas de questions. Et la seule chose qui compte, c'est de ne rien laisser transparaître. On est une équipe. On fait un travail d'équipe. On doit compter les uns sur les autres. Il ne faut pas être faible pour les autres. Parce qu'il faut quand même ne pas perdre de vue que dans nos métiers, en fait, quand on est sur une situation compliquée, sur le terrain, quelle qu'elle soit, c'est pas notre sécurité qui compte. Pour nous.
Oui.
Nous, ce qui nous importe, c'est les victimes ou les personnes civiles qui sont autour de nous, les mettre en sécurité et veiller à la sécurité de nos collègues. Point barre. Et du coup, on est vraiment dans cette sphère où on est en souffrance d'un côté, on ne veut pas l'admettre et il ne faut rien faire voir.
Parce que lorsqu'on est flic,
il faut tenir le coup.
Lorsqu'on est flic, on n'a pas le droit de flancher. Donc, c'est bien ça.
Quand on est flic, ou parce que bon, je pense que ce problème-là, on le rencontre aussi dans d'autres métiers d'aide à la personne.
Bien, évidemment.
Quand on fait un métier de secours à la personne, comme les forces de l'ordre, par exemple, il faut, voilà, on ne fait qu'un, on est une équipe, il ne faut pas flancher, il faut tenir coûte que coûte. Point barre. Et on s'y perd souvent. Voilà, malheureusement c'est le cas. On se fait rattraper. On n'est pas des super héros. Hein, nous ne sommes pas des machines non plus. Voilà, nous sommes des gens comme tout le monde, sauf qu'on a pris une orientation professionnelle avec des convictions pour le faire. Point barre. Et au fil du temps, voilà, cette carapace prend le dessus, ce raisonnement prend le dessus. Et puis bon, bah, par moments, ça peut faire des dégâts parce qu'on se fait emporter par les souffrances qu'on a traversées et par nos propres souffrances également. Parce que quand on se prend une claque quand on s'aperçoit des dégâts collatéraux qu'on a causés, parce que bon, bah, quand on est en mal-être, automatiquement, ça laisse des séquelles sur un couple. Voilà, dans 80% des cas, ça finit par des séparations, des divorces. Voilà. Et ça laisse des séquelles, et ça, c'est encore beaucoup plus grave. Et là, c'est là qu'on tombe, en fait, quand on s'aperçoit que ben, notre mal-être, en fait, à générer peut-être du mal-être et de l'incompréhension sur nos propres enfants. Et
ça, ce qui s'est passé pour vous ?
Tout à fait, tout à fait. Et là, là c'est quelque chose où, voilà, je le dis honnêtement, hein, même 4 ans après, ça ne peut que laisser des... On n'est pas insensible, c'est nos... enfin, quand on a des enfants, c'est nos enfants. Même si ils vont bien, on sait qu'à un moment, on a pu les blesser ou créer de l'inquiétude ou du mal-être à cause de nous. Et ça, ça on s'en veut. Et je pense que bon, même si on fait un travail auprès d'une en psychologie ou en psychiatrie, c'est quelque chose qui marque et c'est humain même de se dire bon bah là, ouais, là j'aurais dû me réveiller avant pour me faire aider et il n'y aurait pas eu ces séquelles-là. En fait, je pense que c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait le plus mal. Ça c'est clair parce que bon bah voilà, on est des parents, c'est normal qu'ils veuillent le meilleur pour leurs enfants. Et quand on voit qu'on a mis un genou à terre, qu'on a réussi à se lever, mais derrière il y a eu quelques petites séquelles sur la famille, c'est très dur. Et du coup c'est à ce moment-là qu'on se dit non mais plus jamais, il faut que je saisis la première main qui vient ou qui m'est tendue pour me faire aider et je réfléchis même pas, j'y vais. Tout simplement. Si je ne le fais pas dans un premier temps pour moi, oui. Je le fais pour mes enfants ou pour mon conjoint ou ma conjointe, peu importe. Mais voilà, il faut une impulsion. Et malheureusement, me concernant, il a fallu un électrochoc comme ça pour que je franchisse le pas.
Oui.
Voilà, tout simplement. Donc ça s'est traduit par une première hospitalisation voilà, pour faire descendre un peu tout ça, avec un suivi, avec des échanges avec des professionnels de santé, hein, ça il n'y a pas de secret. Et puis après, j'ai eu la chance de croiser chez des confrères à vous, sur un plateau télé, où on parlait justement du mal-être policier, j'ai croisé une psychologue qui m'a parlé du courbat. Alors, personnellement, je n'osais pas y aller et j'y suis resté plusieurs semaines. Et
ah, d'accord, ok.
Voilà, il faut quand même dire que c'est...
Expliquez à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est le courbat, parce que j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais oui. Il serait bon que vous leur expliquiez qu'il y a un établissement qui a été créé par les CRS. Hein,
voilà, alors à la base, effectivement, oui, dans les années 70, en fait, c'est une association de CRS qui s'appelle l'ANAS. On dit deux CRS parce qu'à la base ce sont des CRS qui ont créé cette association, établissement qui existe toujours, donc qui est spécialisé, c'est le seul établissement en Europe en fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est le seul établissement en Europe spécialisé pour les forces de l'ordre. Alors il est spécialisé dans l'aide pour le sevrage, quel qu'il soit, hein, voilà, et également pour la prise en compte du burn-out. Voilà. Alors, il n'est pas pour la crise quand on n'est vraiment pas bien ou certains sur des phases suicidaires. C'est pas un établissement qui est fait pour ça, mais par contre, c'est un établissement qui est fait pour prendre le relais d'une clinique, pour se remettre d'aplomb et réapprendre à vivre en société, si je puis dire,
oui.
Avec certaines règles qui sont propres à nos institutions, comme le matin, le lever des couleurs, l'appel... 3 fois dans la journée. Et franchement, je peux en dire que du bien, parce que si j'en suis arrivé là, c'est aussi pour beaucoup grâce au travail du Courbat et de toute son équipe, parce que ce sont des gens, des professionnels de santé, mais qui sont vraiment à l'écoute et qui sont formés pour les spécificités des forces de l'ordre, du métier. Et on a la chance d'avoir ça en France, en Indre-et-Loire, entre Tours et Amboise. Voilà, je peux en dire que du bien. C'est vraiment formidable comme établissement.
C'est formidable.
Ça remet vraiment...
c'est formidable j'ai trouvé que, bah, bien évidemment, vu ce pourquoi les fonctionnaires qui y atterrissent viennent, il y a un grand professionnalisme, mais il y a quelque chose en plus qu'ailleurs, je dirais, parce que finalement, ceux qui vous aident, sont eux-mêmes policiers et sont eux-mêmes passés. Alors, certains d'entre eux, hein, pas tous, mais je trouve que ce système-là, d'être dans les mains de fonctionnaires qui ont eux-mêmes, à un moment, eu cette grande souffrance et qui s'en sont sortis, qui en ont tiré des enseignements hein, humains, spirituels, philosophiques.
Tout à fait.
Vous donne une vision autre et plus, bon, plus large de votre mission, en fait. Et je dirais que j'ai senti que ce quotidien difficile hein, que je remets sur le tapis parce que il est le quotidien de beaucoup de policiers aujourd'hui hein, cette agressivité ces situations tendues, ces insultes, ces mauvais regards, enfin il y a comme vous le disiez une animosité d'une partie de la population. C'est difficile à vivre au quotidien, ça. Imaginez-vous, vous qui nous écoutez, vous partez faire vos courses et puis vous allez croiser, sur les 50 personnes que vous croisez, vous allez en croiser 20 qui vous regardent de travers ou qui chuchotent dans votre dos ou qui se moquent de vous ou qui vous insultent ou vous provoquent. Ça, tous les jours. Quand on se met à la place des policiers, on peut se dire que c'est un métier... Oui, qui est pénible. Et donc, il y a aussi, on a parlé de la dépression, on a parlé de, bien évidemment de ce que vous avez traversé, Cyril, mais il y a aussi ces fonctionnaires qui, que ça rend colérique, que ça rend haineux, que ça rend raciste même. Hein, et on a aujourd'hui, malheureusement, une partie qui glisse un peu vers des extrêmes et des pensées qui sont dangereuses, elles aussi. Et on a l'impression que, finalement, on se préoccupe assez peu de tout ça. On en parle, on parle des incidents, mais on parle peu de ce qui pourrait faire que ça s'arrange un peu, que ça évolue. Comment ? Est-ce que c'est votre sentiment à vous, en tant que policier ? Est-ce que vous sentez que... Je ne sais pas, les politiques sont préoccupés par votre situation. Est-ce qu'on essaye de réfléchir sur tout ça ?
Alors franchement, en toute impartialité, je vais vous dire franchement que on est pour ou on est contre, peu importe, mais il faut quand même reconnaître que là, de ces dernières années, il y a une prise de conscience du ministère de l'Intérieur. Mmh. À savoir, depuis 4 ans, ça a commencé avec M. Castaner déjà.
Oui. J'allais vous dire que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron,
oui, voilà.
Je trouve qu'il y a une prise, j'étais en train de dire... confiance.
Voilà, oui, tout à fait, parce que... Depuis ces dernières années, on a quand même beaucoup plus de moyens qui ont été alloués au SSPO au sein du ministère de l'Intérieur. Donc le SSPO, c'est le service de soutien psychologique opérationnel, qui regroupe, entre autres, au-delà de la médecine de prévention, les psychologues. Ça a le mérite d'exister. Moi, personnellement, je suis rentré dans la police dans les années 90. On n'avait pas ça. Là, ça a le mérite d'exister. Il y a eu plus d'effectifs. Ces dernières années, au niveau national, il y a vraiment une prise en compte. Il y a des choses qui ont été mises en place maintenant, depuis 2 ans, des directives sont passées au sein de la sécurité publique, entre autres. Alors, je peux parler que de la sécurité publique parce que je ne connais pas les autres directions. C'est-à-dire que dès qu'un équipage rencontre une situation compliquée comme des échanges de coups de feu, agression au couteau, neutralisation d'un individu armé, automatiquement, il y a une demande de mise en place d'une cellule avec un ou une psychologue de l'administration.
D'accord, ça c'est très bien. Très bien.
Ça n'existait pas avant.
Oui.
Mais c'est que du positif. Voilà, des effectifs en plus. On commence à avoir également, alors c'est des petits riens aussi en dehors de ce service-là, au niveau du quotidien. Alors, c'est pas parfait partout, mais bon, il y a des lignes budgétaires aussi à respecter. Ça représente quand même assez d'argent, donc faut quand même reconnaître des améliorations au niveau des véhicules, par exemple. Alors là, c'est indéniable. Cette dernière année, on a eu le parc de véhicules qui a été renouvelé. Mm-hmm. Pas partout, mais c'est en cours. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, en fait. Le monde parfait n'existe pas, mais il faut quand même reconnaître que voilà, il y a une volonté politique. D'aller vers le mieux,
il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a une prise de conscience parce que vous êtes arrivé dans les années 90, donc 5 ans plus tard, on va dire 10 ans plus tard, la mutation profonde de la société par rapport aux policiers, hein, je vous parle, hein, de l'attitude.
Alors, On peut tout analyser, on peut chercher le pourquoi du comment. Il y a plein d'analyses possibles. Effectivement, à une période, bon, dans les années 90, on avait la police de proximité, les CLJ qui sont toujours en d'actualité, puisque voilà, il y en a certains qui fonctionnent très bien. Il y avait des interactions, en fait, à l'époque, que ce soit avec les mairies, avec les missions locales. Enfin bon, il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place. Là, on recommence à avoir des échanges. Depuis ces 4-5 ans, en fait, avec ces structures, pour essayer de retrouver, on va dire, de la citoyenneté et de l'échange. Parce que, bon, faut pas oublier qu'on enlève l'uniforme, on est un citoyen comme tout le monde.
Complètement.
Et les interactions et l'échange et la discussion, c'est la base de tout. On dira ce qu'on veut. Moi, je pense que le tout répressif, c'est une chose, mais ça... pas grand chose, mais par contre, quand on va dans l'échange, dans l'interaction, ça peut être que bénéfique. Pourquoi ne pas créer des systèmes un peu, alors ça c'est une interrogation, hein, c'est à titre perso, ça n'engage que moi, pourquoi ne pas créer des systèmes un peu comme dans certains pays anglo-saxons, où bah, vous avez le policier du quartier, qui vient avec sa hiérarchie, et qui va par exemple à une mission locale où il y a les jeunes qui se regroupent, sur les réunions de quartier, ça se fait un peu, mais le généraliser avec tous les collègues de terrain. Sur une journée, pourquoi ne pas, là il y a l'annexe de la mairie, bah, aujourd'hui on fait une rencontre citoyenne entre tous les acteurs sociaux, les gens du quartier et au-delà de la police, hein, toutes les personnes qui sont là, qui représentent l'État à différents niveaux, pourquoi pas mettre tout le monde autour d'une table pour échanger une après-midi comme ça, et le faire peut-être tous les trimestres ou tous les semestres, peu importe. Mais ça permettrait déjà peut-être que les gens d'un quartier se connaissent, donc c'est une interaction, et nous aussi, en tant que force de l'ordre, d'être connu et d'avoir un autre rapport plutôt que d'avoir le rapport du policier qui est là au coin de la rue que certains s'imaginent. Mais non, c'est là on est autour d'une table ou assis, peu importe, et là par contre on parle de tout et rien et on échange, et puis deux jours après peut-être c'est dans la rue, on se croisera et puis on entamera une autre discussion.
Mais vous vous rappelez de cet échange du président Sarkozy avec un gradé qui jouait au rugby avec les jeunes.
Oui,
qui
non l'avait...
mais ça
sans
a fait...
commentaire.
Voilà. si, moi je vais en faire un petit. À l'époque, on avait des politiques qui, franchement, avaient un mépris pour cette notion-là d'échange, de rapprochement, de communication, voilà, de parler avec les citoyens et de cette fameuse police de proximité.
Mais à l'époque, on n'avait pas les problèmes que nous avons maintenant.
Non, et aujourd'hui, c'est chaud. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous vous sentez à un moment, quand est-ce que ça a basculé et quand est-ce que c'est devenu plus difficile ? Est-ce que ça correspond au moment de Charlie Hebdo ? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'à partir de là, il y a eu, y a eu un basculement. Il y a eu quelque chose...
Alors, non, au niveau de Charlie Hebdo, en fait, c'est après en fait, que ça s'est dégénéré. Enfin, pour moi, c'est au niveau de Viry-Châtillon. Parce qu'au moment de Charlie, le Bataclan, Charlie, voilà, là on était dans, on a applaudi la police, on va dire, voilà,
oui.
Ça se passait bien, voilà. Il y a eu des événements de Viry-Châtillon, après je ne sais pas.
Rappelez-nous, le Viry-Châtillon, ce sont ces policiers qui ont été pris, qu'on a failli faire brûler.
Qui ont été bloqués dans les véhicules et où on a mis le feu aux véhicules, tout à fait.
Qui était une réelle tentative d'incendier, tuer, hein.
Ah mais là c'est une... enfin voilà, pour nous tous policiers, ça c'est des tentatives de meurtre. Quand on voit, faut quand même rappeler aux gens que l'utilisation, par exemple, quand on voit certaines manifestations avec une minorité, parce qu'ils sont que sur 3000 manifestants, il y a 10 énergumènes là qui balancent des caillasses ou des cocktails Molotov. Faut pas oublier qu'un cocktail Molotov, c'est considéré comme une arme de guerre. Donc par rapport à ça, en fait. Là, franchement, je parle au niveau de pour beaucoup de mes collègues qui sont admiratifs des collègues qui se prenaient qui se prennent même peut-être toujours des cocktails Molotov et qui restent quand même maîtres de leurs sentiments. Parce que ça, c'est un acte de guerre, faut pas l'oublier. Quand on balance un cocktail Molotov, ou même quand on vise quelqu'un avec un feu d'artifice, on peut dire, nous on l'assimile comme ça, c'est pour tuer.
C'est pour faire mal, en tout cas, oui.
Oui, non mais...
ça peut tuer, c'est clair.
Quand on vise au niveau de la tête, on sait très bien que... enfin, il y a d'autres pensées, malheureusement, qui sont beaucoup plus... qui sont moins sympathiques, hein, pour rester poli. Donc, voilà, donc, tout ça, nous, en fait, en tant que force de l'ordre, voilà, bon, il y a l'effet de foule aussi qui fait que, voilà, parce que quand on les prend individuellement, c'est le jour et la nuit, hein, ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme tout, hein. C'est la nature humaine qui veut ça. Mais à côté de ça, voilà, les collègues restent maîtres d'eux, et tout ça, là, je reviens sur l'accumulation de souffrances. Il y a de l'incompréhension, il y a aussi de la colère, parce que bon, on se dit, mais bon sang, c'est bon, moi je veux revoir ma famille ce soir, c'est pas possible. C'est pas possible de subir ça. Donc, on reste de marbre, on subit en fait. On subit, bon, tout le monde le sait, et même au niveau des différents gouvernements qu'il y a, ils le savent très bien. Là, que ce soit notre ministre de l'Intérieur ou le gouvernement, le voit très bien qu'en fait, on reste maître de nous-mêmes. Et je pense qu'ils savent très bien que la souffrance que ça peut engendrer. Preuve en est, avec le Beauvau de la sécurité, où certaines associations ont été reçues au Beauvau pour pouvoir parler de cette souffrance. Il y a un travail qui est en train d'être fait par le ministère par rapport à ça. Bon, voilà, ils travaillent dessus, ça mérite d'être fait. Voilà, je jette pas des fleurs, mais je reconnais le travail qui est fait. Donc ça, c'est indéniable. Voilà, on va voir ce qu'il en ressort, mais en attendant, bah, ils se sont retroussés les manches et puis ils ont dit, bon, bah, oui, voilà, là, c'est inadmissible ce qui se passe à l'extérieur. Il y a de la souffrance auprès des agents qui sont donc sous notre autorité. Ben, on essaie de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Voilà. Et preuve en est, on a quand même M. Castaner qui s'était déplacé au Courbat. Je crois que M. Darmanin en a fait d'autant, je suis pas sûr, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, je sais qu'il prend ça aussi à bras-le-corps, parce que bon, ben voilà, c'est son ministère. Et ben, quand on a des subordonnés, ben, on fait en sorte que tout se passe bien pour eux et d'essayer de résoudre les problèmes en amont. Donc, c'est en train d'essayer. Il y a une machine qui est en route. Voilà, nous, on peut pas juger ou dire quoi que ce soit. Le job est fait de leur côté. Donc, ce bon. Serait mentir que de tirer
non,
sur l'ambulance,
il y a,
si
il
je puis dire.
Il y a, bien évidemment, des initiatives. Il y a eu une prise de conscience politique, il y a des hommes, hein, aussi de l'autre côté.
Mais même dans la population, ce
et
que
même
je veux
dans
dire.
La population. Mais voilà, depuis le 1er janvier 2021, 40 membres des forces de l'ordre ont volontairement mis fin à leur jour en France. Aujourd'hui, cette association qui s'appelle Assopol.fr, avec deux S, hein, Assopol.fr, elle a quelle vocation finalement que vos collègues vous appellent, vos collègues en détresse, qu'ils vident un peu leur sac, à quoi ça sert?
Alors, avant tout, libérer la parole. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des thérapeutes, loin de là. Hein. Nous sommes des forces de l'ordre comme eux. Donc, en fait, c'est de parler d'égal à égal avec nos codes qu'on a au niveau du boulot, nos ressentis, parce que malheureusement... le dénominateur commun des interventions, c'est souvent la même chose. Hein. Vous êtes appelé pour des violences familiales, voilà comme on en parle en ce moment, des agressions, ce genre de choses. Chacun le vit différemment, bien sûr. Et nous, en fait, quand on nous appelle, bah, c'est déjà Edune qui vide leur sac. Avant tout, ils vident leur sac. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans le jugement, on est collègues, donc point barre, ça s'arrête là. Et on explique, en fait, toutes les possibilités qui existent pour se faire aider, pour combattre le mal-être. Voilà, à un moment donné dans notre vie, on a besoin d'un coup de main. Qu'il soit administratif, amical, de par l'État ou associatif, peu importe. C'est-à-dire que nous, on leur explique déjà ce que c'est qu'un médecin psychiatre, un psychologue, un thérapeute qui peut travailler en sophrologie, par exemple, ou hypnose, peu importe. Voilà, les différents strates qui existent. on leur dit, voilà, l'administration a mis en place un système avec que ce soit le BSST pour, ou le SST, donc ce sont les services de psychologue pour la gendarmerie ou le ministère de l'Intérieur ou CCS pour la police municipale. Ça existe, c'est indéniable, donc c'est très bien. Beaucoup de collègues ont un frein pour parler à un médecin de l'administration ou à un psychologue de l'administration. Ça a été mon cas, je sais ce que c'est, je sais pourquoi. Donc on est tous du même avis, c'est qu'on a peur d'être vu, déjà et d'une. On a peur d'être pointé du doigt, on a peur d'être écarté, on a peur d'être désarmé. Alors, petite parenthèse, on a peur d'être désarmé, c'est pas le fait d'avoir une arme sur soi. Être désarmé pour un membre des forces de l'ordre, ça veut tout dire. Pourquoi ? Parce que si on est désarmé, on ne peut pas aller sur la voie publique, on ne peut pas répondre à l'urgence, on ne peut pas épauler nos collègues s'il y a une difficulté. C'est ça qui nous... C'est pas le fait d'avoir une arme. Mmh. On s'en fiche de ça. C'est ce que ça veut dire derrière pour nous. Ça veut dire que nos collègues sont en difficulté sur la République, il y a un coup dur, on n'a pas le droit d'y aller. C'est tout simplement pour ça, en fait.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est... Parce que, bon, pour beaucoup de gens, vont se dire, ah ouais, ils ont peur d'être désarmés, ils veulent avoir... Non. C'est ça, l'arme, on s'en fiche. Nous, on sort du boulot, s'il faut, on la laisse dans une armoire forte, souvent au commissariat. Enfin, bon, voilà, on ne fait pas les cow-boys. Hein. C'est ce que ça veut dire derrière, professionnellement parlant. Professionnellement parlant, on n'a pas notre arme, nos collègues sont en difficulté, ils ne peuvent pas compter sur nous. Et si on a un collègue qui s'est blessé sur une intervention, on n'a pas pu aller, là, on le vit mal aussi, franchement.
J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, que le ministère de l'Intérieur allait vous autoriser à porter votre arme hors service. Justement, pour
c'est
assurer...
Déjà le cas.
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas.
D'accord.
C'est déjà le cas depuis longtemps. En fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que là, maintenant, à partir du 1er janvier, on va être comme les gendarmes, en fait, on va pouvoir bénéficier davantage pour prendre les trains nationaux, tout simplement.
D'accord.
Et ouais. En fait, comme les gendarmes, il faut qu'on se signale aux contrôleurs. Et en cas de coup dur, en fait, ils nous demandent, enfin, ils nous solliciteront pour intervenir ou pour les épauler s'il y a vraiment un truc dans le train, quoi, quelque chose de grave.
Tout simplement.
Mais en fait, l'arme, on l'avait déjà.
On va marquer une nouvelle pause avant de se quitter, mon cher Cyril. On va laisser passer l'info qui arrive à grands pas sur Europe 1. Mais voilà, je veux qu'on prenne le temps de se dire au revoir et de reciter le nom de votre association. Vous restez avec moi et puis on se retrouve dans 6-7 minutes, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Cyril. Nous sommes avec Cyril qui évoque le métier de policier et qui évoque la création de cette association assopol.fr vient en aide aux collègues qui, à un moment, ont besoin de vider leur sac, ont besoin de parler, ont besoin d'évacuer. On a entendu depuis presque une heure, Cyril, nous parler de cette profession. Et puis, cette parole, elle est rare, Cyril. Parce que vous avez un devoir de réserve et c'est rare et c'est précieux de vous entendre ce soir. Parce que pour moi, ça fait partie aussi de ce fameux échange, ce dialogue à instaurer, à restaurer, même entre les citoyens et la police aujourd'hui. Et votre témoignage fait partie de cette construction-là. Vous recevez beaucoup d'appels, Cyril ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, bon, c'est pas trop de moyenne, mais nous sommes entre là depuis le 1er janvier 2021, nous sommes à peu près à 80-100 sollicitations par mois.
Oui.
Malheureusement, ça ne diminue pas. Demain, nous serons les premiers heureux à pouvoir arrêter l'association. Ça voudra dire qu'il n'y a plus de mal-être et il n'y a plus de malaise. Donc, c'est un peu utopique, certes, mais bon, ce serait parfait, on va dire. Et en même temps, bon, on se dit qu'on répond à beaucoup de sollicitations et ça. Sans vouloir faire encore une fois se mettre en avant ni quoi que ce soit, comme on dit, il vaut mieux être silencieux et efficace. ça c'est sûr. Mais on se dit voilà, on est à l'écoute de nos collègues et peut-être que depuis le début de l'année, peut-être qu'il y a un collègue qui était peut-être plus mal que les autres. Et on lui a peut-être donné une possibilité d'une de de parler de son mal-être et d'être orienté vers des professionnels, parce que c'est ce qui compte le plus, en fait. C'est que quand on n'est pas bien, on a des œillères, on ne voit pas forcément les solutions qui s'offrent à nous. Et de pouvoir discuter entre nous sans préjugés, sans rien, ça permet peut-être de mettre en avant une vision plus claire, en fait, de la situation que la personne traverse, et lui faire comprendre que bon, bah, là on a atteint nos limites, en fait, dans l'échange, en toute amitié, en toute fraternité, et peut-être qu'il faut franchir le pas en acceptant, en fait, de prendre des coordonnées et de rentrer en contact avec un ou une professionnelle. Voilà, que ce soit un médecin psychiatre, une psychologue ou un psychologue, thérapeute pareil. Voilà, le tout, c'est d'aller
de
vers
faire le
mieux.
Pas. En tout cas, donc, voilà. Il y a Assopol, cette association que vous pouvez trouver, vous qui nous écoutez. Donc c'est Assopol avec deux S, .fr. Et puis voilà, cette association, elle est pour tous ces gendarmes, ces policiers, qui... trimballent ce bagage de souffrance, et puis qui sont souvent confrontés à ce qu'il y a de plus moche, dans la société. Donc, sans avoir vraiment d'échappatoire psychologique, on peut comprendre que la situation peut finir par être tendue, voire explosive. Donc, vous qui nous écoutez, vous savez qu'il y a cette association. On relaiera cette association sur notre groupe de parole. Et puis, bien évidemment, nous tous, en tant que citoyens, il faut bien avoir en tête qu'on doit participer aussi à cet effort pour rendre... à tous ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers aussi, eh bien, ce qu'ils méritent, c'est notre amitié, notre respect. Voilà. Cyril, merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bon vent à Assopol, et puis n'hésitez pas à nous téléphoner, un de ces quatre, pour nous redonner des nouvelles. OK ?
Avec plaisir, merci beaucoup.
Bonne soirée à vous, Cyril. Au revoir.
Merci bien, au revoir.